Bonsoir, shalom. Bon, ça fait plaisir de retrouver de temps en temps le centre communautaire de Paris. Espérons qu'il se vide le plus rapidement possible, mais pour de bonnes raisons. Et c'est tout à fait bien accepté par les responsables. Le titre qu'on a donné à la conférence est extrêmement vague. Il s'agit du temps du retour. Et en fait, je voudrais entretenir d'un point très particulier qui concerne les événements que nous vivons de nos jours, c'est-à-dire depuis les 60 dernières années, depuis la fondation de l'État d'Israël. Il s'agit d'un problème d'actualité, bien que tout le monde ne s'en rende pas vraiment compte. Il s'agit d'une recrudescence, d'une renaissance du noachisme. Le noachisme, c'est-à-dire, on peut dire, on va appeler ça d'un grand mot, la religion des goyim selon la Torah. Pour bien resituer de quoi il s'agit, vous savez que ça fait de temps en temps, périodiquement, on reparle de ce projet. Vous avez certainement entendu parler de l'œuvre monumentale du Rav Eli Ben Amozeg de Livourne en fin du XIXe siècle, qui avait entrepris, disons, un projet qui n'a pas vu jour. Ce que voulait le Rav Ben Amozeg, c'était d'amener l'humanité civilisée, enfin, de manière générale, l'humanité tout entière, à adopter un nouveau type de spiritualité enseignée par le judaïsme pour les nations de la terre. Et c'est ce qu'on appelle le noachisme, ou si vous voulez, d'après l'expression du Rambam, Beit Avraham, la maison d'Abraham. C'est un projet qui concerne l'humanité tout entière et qui doit être géré par le peuple d'Israël. Alors bon, on parle souvent de ça, des sept commandements, des lois noachides, et on parle beaucoup de ces choses-là. Et puis il y a eu des tentatives, alors vous avez certainement entendu parler donc de Aimé Pallière, ce Français d'origine catholique qui a tenté d'avoir le statut du Guer Toshav ou du Ben Noach, peu importe comment est-ce qu'on appelle cela. Et puis vous avez peut-être entendu parler d'autres initiatives qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, tel que le village de San Nicandro en Italie du Sud, où toute la population pratiquement a adopté une forme de proto-judaïsme. Et puis, de temps à autre, on entend parler d'initiatives de ce genre, aussi bien de la part de non-juifs que de juifs. Et jusqu'à présent, tout cela a été, je ne vais pas être trop méchant, mais relativement un échec. Et le problème est de savoir, est-ce que véritablement, le judaïsme est capable de prendre en main ce qu'il prétend prendre en main, c'est-à-dire le relèvement spirituel de l'humanité, spirituel et moral. Est-ce que l'humanité serait capable d'écouter ce que Israël a à lui dire? Est-ce qu'il y a véritablement un message universel du judaïsme? Vous savez qu'il y avait un philosophe français d'origine juive, mais enfin qui ne connaissait pas tellement son judaïsme, il s'agit d'Henri Bergson, qui a affirmé la priorité du christianisme, la supériorité, pardon, du christianisme sur le judaïsme, parce que le judaïsme représente un Dieu purement national, tandis que le christianisme parle d'un Dieu qui s'occupe de l'ensemble des hommes. Cette critique, bon, qui a été formulée de manière peut-être un peu infantile, parce que c'est quand même, il suffit de connaître un petit peu le judaïsme pour connaître son message universel. En tout cas, cette critique reste sous-jacente dans le dialogue des nations avec Israël. Et même quand ce n'est pas toujours formulé de manière aussi schématique, eh bien, il y a quand même cette critique, manière plus ou moins nuancée, qui apparaît. Et donc, on se demande, est-ce que les juifs vraiment ont quelque chose à dire aux goyim? Surtout que si vous parlez avec des juifs, vous leur dites, vous savez, il y a des goyim. A dit, ah bon, c'est vrai? On ne savait pas. C'est vrai, hein? Souvent, les goyim, ça n'existe pas. Et bon, c'est parfois péjoratif, et parfois, c'est simplement dans le décor. Mais il n'y a rien de plus. Et c'est très surprenant, surtout quand on se rend compte de ce que dit la Torah dans la paracha de Lech Lecha, quand il est question de l'élection d'Abraham. Eh bien, l'élection d'Abraham apparaît d'emblée comme étant une bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est le seul peuple, le peuple juif, qui dès le départ de sa formation, dès son émergence dans l'histoire, s'est vu investi d'une mission universelle, dès le départ. C'est pas qu'ils ont un événement tardif, comme s'il y avait disons, une éclosion du particularisme vers l'universalisme. Dès le départ, nous présentons comme ceux qui amènent une bénédiction pour toute la terre. Et d'ailleurs, ça nous a causé pas mal d'animosité de la part des autres, qui nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces prétentions? C'est une des raisons de l'antisémitisme. Et vous voyez tout de suite se profiler dans l'arrière-plan l'idée qu'il y aurait un protocole secret, le protocole des sages de Sion, qui viendrait s'emparer de la planète pour la domination des Juifs. Et en fait, donc, disons si on fait l'économie de ces caricatures, on peut se demander comment ça se fait que depuis si longtemps, eh bien, les Juifs vivent repliés sur eux-mêmes. Repliés sur eux-mêmes, et qu'ils ont oublié, probablement, enfin, en grande partie, pas tout le monde a oublié, il y a des sages qui n'ont pas oublié, mais on a, en grande partie, du point de vue des préoccupations des Juifs, eh bien, on ne parle pas tellement de ces choses-là. N'est-ce pas ? Un Juif est plus préoccupé de savoir si ce qu'il a dans son assiette, c'est cachère ou pas, que de savoir s'il a quelque chose à dire sur le conflit de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, par exemple. Voilà. À moins que ce soit simplement des banalités. Et il y a des raisons à cela, et je voudrais étudier ça avec vous très rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que je vous invite, c'est à créer un Beth Midrash, vraiment une maison d'études, dans laquelle le message universel d'Israël serait étudié de manière sérieuse, avec des publications, des actions et tout le reste. Et là, je voudrais simplement rappeler quelques petites données qui sont probablement connues de la plupart des gens ici, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. Vous savez que, selon la tradition d'Israël, il y a une définition de l'être d'Israël à travers les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, quand on demande qui sont les Juifs, eh bien les Juifs sont les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ça a l'air tout banal, hein, mais en vérité, ce n'est pas simple du tout. Moi, j'aurais dit tout simplement, les Juifs sont les descendants de Yaakov, point à la ligne. Parce que, Yaakov étant un fils d'Yitzhak et Yitzhak un fils d'Abraham, il va de soi que quand on est fils de Yaakov, on est fils de Yitzhak et d'Abraham. Et si pourtant la tradition ne cesse de répéter que nous sommes les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et d'Yaakov, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'identité d'Israël est définie par ces trois-là et pas par un seul. Et là, je vais très rapide, je vais reprendre des enseignements qui ont été formulés de manière assez géniale par le Rav Yehuda Lion Ashkenazi Manitou, qui est, si on avait fondé le peuple juif à partir d'Abraham seulement, nous aurions eu un seul patriarche, ça aurait donné une religion d'amour, se prétendant monothéiste. Il y en a une d'ailleurs, j'ai entendu parler. Et si on n'avait été que les enfants d'Yitzhak, ça aurait donné une religion de rigueur. Monothéiste, à prétention universelle, j'en connais une. Ça existe. Et si on n'avait été que les enfants de Jacob, on aurait été des juifs d'exil. On aurait été des Haredim. Et le projet d'Israël est formé d'une sorte de synthèse dialectique entre les trois. Et ce qui donne un mélange un peu explosif, c'est une nation à portée universelle qui agit au moyen d'une religion. Vous avez compris ? C'est les trois à la fois. C'est à la fois religieux, donc individuel, national, donc collectif, et universel, donc humain. Voilà. C'est les trois à la fois. Et disons, c'est à la fois indissociable, mais à la fois ça crée des tensions terribles. Ça rappelle un peu la tension qu'il y a dans l'être humain entre le corps et l'âme. Alors, on a un corps et une âme. Banalité, n'est-ce pas ? Ben, essayez de gérer ça maintenant. On va vous y voir. Moi, j'ai un corps et j'ai une âme, je sais ce que ça pose comme problème. Tandis que si on n'avait qu'un corps ou qu'une âme, ça irait mieux. Ça serait plus simple. Bon, eh bien, si on n'était qu'une religion, ou qu'une nation, ou que du cosmopolitisme, ça aurait été très bien. Mais on doit faire les trois à la fois, ça pose des problèmes à n'en plus finir, ça crée des dissensions parmi les juifs, ça crée des animosités entre nous et les nations. C'est probablement que nous avons de la patience. Il y a une expression terrible que l'on chante parfois, c'est « Am ha-netzach lo mefached mider haruka ». Le peuple éternel n'a pas peur d'un long chemin. Et c'est un vrai problème. Le fait de ne pas avoir peur des longs chemins fait que l'on traîne. C'est-à-dire qu'on pourrait aller parfois plus vite, et puis on traîne. Et quand on traîne, ben, ça entraîne des catastrophes. L'archétype de ça, c'est la faute des explorateurs. Le moment était venu d'entrer sur la Terre, et puis ils ont dit, non, il y a encore le temps. Il y a encore le temps, c'est grave. Mais en tout cas, ça veut dire que notre histoire est faite de telle sorte que, puisque nous avons plusieurs milliers d'années pour réaliser notre projet, donc, effectivement, on a des projets à longue échéance, avec des budgets énormes, et donc, ce que l'on fait, c'est que nous consacrons une partie de notre histoire à la réalisation d'une dimension. Et puis après, une autre partie de l'histoire à la réalisation d'une autre dimension. Et après, d'une troisième. Et après, on fait des réunions, des regroupements. Alors là, je vais essayer d'être très rapide et un peu schématique, vous allez me pardonner. Mais la pensée schématique, avec tout ce qu'elle a d'infantile, elle est utile. Elle permet de progresser. Il y a trois manières d'être le troisième patriarche. On peut être Jacob, on peut être Israël, ça c'est connu, et puis on peut devenir d'Israël Yeshurun. Il y a trois termes qui sont employés dans la Torah pour parler du peuple d'Israël, Yaakov, Israël et Yeshurun. Et s'il y a trois termes, du point de vue de la Torah, ça veut dire qu'il y a trois identités. Effectivement, Yaakov, ça veut dire en hébreu le tordu. Oui, le tordu. Les Juifs sont un peu tordus, c'est vrai, parce qu'ils vivent dans un monde tordu. Quand on est dans un monde tordu, il faut se comporter à la manière des tordus. D'ailleurs, notre ancêtre éponyme, Yaakov, lui aussi, il employait des voies tortueuses pour arriver à ses fins. La ruse, il a volé la bénédiction, il a volé le droit d'aînesse. Hein, il faut savoir ce que ça veut dire. C'est comme ça que ça marche. Je ne vais pas dire ça pour les gens qui font des déclarations d'impôts, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est vrai que nous sommes dans un monde tordu. Et donc, Yaakov, c'est le juif, on pourrait dire le juif du ghetto, le juif qui vit entre lui et lui-même. Il vit dans sa synagogue, dans son Beth Amidrash, dans sa boucherie cachère et dans son mikvé, et dans son centre communautaire. Et c'est ça, Yaakov. Et puis, vient le moment où Israël se redresse. En hébreu, Yachar, Yachar El. Yachar El, Israël, et c'est le nom qui lui est donné au moment où il est capable de lutter et de vaincre. Au moment où il est capable d'assumer la dimension politique. Et on peut dire que ce passage de Yaakov à Israël, nous l'avons vécu, nous, au XXe siècle, lors de la fin de l'exil d'Israël. Ça, on l'a vécu. Nous sommes maintenant dans un temps, qui est également le titre de la conférence, d'après l'imprimé, nous sommes dans le temps du retour. Et dans ce temps du retour, c'est le retour à quoi ? C'est pas le retour à la terre d'Israël, c'est le retour à la nationalité d'Israël. C'est-à-dire, nous venons de juifs, nous redevenons israéliens, donc des hébreux. C'est la fameuse expression bien connue de Manitou, un hébreu d'origine juive. C'est-à-dire que nous sommes en train de redevenir quelque chose qui prend sa place dans le concert, non pas des religions, mais des nations. D'où tout le problème de savoir est-ce que le terme Yehudi désigne une religion ou une nation. Vous savez que dans les cartes d'identité israélienne, il fut un temps, on écrivait également la nationalité et la religion. Et on écrivait, par exemple, pour les Juifs, les hommes Yehudi, dat Yehudi, c'est-à-dire de nationalité juive et de religion juive. Et on ne se rendait pas compte qu'en fait, ça créait un conflit. Ça veut dire qu'une identité repoussait l'autre. Comme on dit en hébreu, Yehudi, Megaresh Yehudi. Un Juif rejette un autre Juif. Et bon, il y a des prolongements politiques à cela. Et ça demande évidemment, pour comprendre ce à quoi je ne fais pas allusion, un certain sens de l'humour que pas tout le monde a. Et donc, pour revenir à... Donc nous sommes passés de Yaakov à Israël, ça nous avons compris ça de nos jours. Et puis d'Israël, nous devenons Yeshurun. Alors c'est quoi Yeshurun ? Eh bien Yeshurun, c'est justement la dimension universelle. Il y a aujourd'hui une critique violente d'Israël dans la collectivité internationale qui n'est pas seulement, comme on essaie de le dire parfois, une critique de la politique israélienne. Si c'était que ça, ça ressemblerait aux critiques qu'on entend dans toute la presse internationale contre tel ou tel gouvernement, telle ou telle action. Si on a l'oreille assez fine, on se rend compte, on n'a pas besoin d'une oreille assez fine, il suffit même d'une oreille assez épaisse, pour se rendre compte que c'est une délégitimation de l'être d'Israël. C'est-à-dire, ce qui auparavant était adressé au peuple juif par les antisémites, est adressé à l'État d'Israël en tant qu'État. Il y a une revendication du peuple d'Israël de nier soit son droit à l'existence, mais en tout cas son droit à la spécificité. C'est-à-dire, vous êtes un État de fait, vous habitez Tel Aviv ou même Jérusalem, la partie orientale, occidentale seulement, et puis, mais en tout cas, ne dites pas que vous êtes un État juif, vous n'avez pas le droit. Et la question se pose, mais d'où vient cette violence ? Pourquoi tant de haine, comme on dit ? Et alors on peut dire, bon, il y a des raisons politiques, il y a des pressions économiques, des boycotts, une population musulmane importante en France ou en Occident de manière générale, etc. Mais c'est quand même, ça sonne sais pas, c'est une question d'oreille, ça sonne plus profond. Il y a quelque chose qu'on leur reproche profondément à l'État d'Israël, on lui reproche son existence. Et il faudrait comprendre pourquoi est-ce que c'est un crime d'exister. Et il y a à cela une raison très profonde. C'est que, et là je vais peut-être ne le répéter à personne, hein. Je voudrais simplement, je ne vais pas justifier. Non, je demande même aux spectateurs éventuels de ne pas le répéter, d'accord ? Ce que je veux dire, c'est que les antisémites ont raison. Chut, ne le dites pas. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont raison de reprocher à Israël de ne pas remplir la fonction qu'il doit remplir. C'est-à-dire, nous avons véritablement, si nous avons été fondés dès l'origine avec une mission universelle, alors maintenant il faut la remplir. Alors pendant tout le temps de l'exil, on avait des circonstances atténuantes. C'est normal. On était persécutés, on travaillait pour notre survie de tous les jours. On ne pouvait pas demander dans un état de persécution permanente de parler aux autres. Il fallait bien qu'on se défende. Il fallait simplement se protéger. Alors, évidemment, ce n'était pas le moment. Alors, il y en avait d'autres qui prenaient notre place. Le mythe du christianisme, le mythe musulman. Mais alors, aujourd'hui, Israël est revenu dans l'histoire. Étant donné que nous sommes revenus dans l'histoire, eh bien, c'est le moment de travailler. Et il y a, il y a ici, comment dirais-je, une erreur d'optique extrêmement grave de la part de la classe responsable en Israël. Je parle aussi bien d'autorité religieuse que politique. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis arrivé d'Israël il y a quelques jours et à l'aéroport, au moment de l'embarquement, vous recevez un prospectus. Si vous êtes israélien et que vous parlez l'hébreu, vous avez un prospectus qui est imprimé par une autorité gouvernementale israélienne, qu'on appelle la Hasbara, et qui vous explique, vous l'Israélien naïf, comment redorer l'image de marque d'Israël à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez faire pour expliquer aux gentils goyim que vous n'êtes pas méchant, hein? Il faut le faire. Et alors, le ministère de l'Extérieur explique, bon, d'abord qu'il faut parler calmement, pas s'énerver, etc., être souriant. Et puis, il vous explique qu'il faut... il faut bien qu'on comprenne la raison pour laquelle on ne nous aime pas, c'est parce que le monde pense que nous sommes un état primitif. Il faut bien leur expliquer que le chameau n'est pas un moyen de locomotion habituel en Israël. C'est pas drôle, c'est écrit, hein. C'est imprimé. Il faut leur expliquer que Israël a une technologie de pointe, hein, que nous sommes un des plus occidentaux des pays du Proche-Orient, que nous sommes très gentils, nous sommes vraiment très démocratiques, que nous sommes gentils avec la minorité arabe. Il faut leur expliquer que nous venons en aide aux désastrés d'Haïti, par exemple. Et il faut leur dire également que nous avons une très grande ville superbe. C'est Tel Aviv. Et en plus de ça, alors dans le prospectus officiel, hein, c'est distribué à n'importe quel Israélien qui s'en va à l'étranger, alors on vous dit, il faut également dire que nous sommes un des plus grands centres touristiques du monde, puisque nous avons Jérusalem, qui est le lieu saint des trois grands cultes monothéistes. Hein? C'est merveilleux, on a un centre touristique. Et en plus de ça, on a une histoire extraordinaire. Alors là, l'Israélien qui ne connaît rien va recevoir une liste de dates historiques avec des événements pour expliquer qu'est-ce que c'est l'État d'Israël. Première date, déclaration Balfour. Première date. D'accord ? C'est même pas le congressionnisme mondial. Parce que le congressionnisme, c'est une revendication d'Israël. On demande d'abord l'aval des nations, la première fois qu'on a eu un aval des nations, c'est-à-dire la déclaration Balfour. Et puis après, après, il y a eu l'État d'Israël, tout ça, il y a eu la guerre des six jours, il y a eu l'assassinat de Yitzhak Rabin, il y a eu l'aide d'Israël à Haïti, etc. Il y a toute une liste comme ça, voilà. Alors, c'est pour tout vous dire à quel point on est à côté de nos pompes, comme on dit en beau français, c'est-à-dire, ou bien qu'on dit, on a manqué la flèche, c'est ça. C'est-à-dire, comme on est loin de comprendre qu'est-ce que c'est que ce que représente Israël dans l'histoire de l'humanité, quelle est la fonction que nous représentons. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Déjà, le roi David nous a dit que les goyim comprennent mieux que nous qu'est-ce que nous sommes. Vous connaissez ce psaume des Tehilim, Beshuv Hashem et Shivat Sion, Aynu Kecholmim. Lorsque Dieu ramène les captifs de Sion, nous sommes comme des rêveurs. Donc nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et puis vient un moment, on dit Az Yomru Bagoyim. Et vient le moment où dans les Goyim, on dit Igdil Hashem la Sotim Meile, Dieu fait de grandes choses avec cela. Alors comme nous sommes à l'écoute des Goyim tous les matins, on dit, ah qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu a fait de grandes choses avec nous. Ah bon? Alors, Igdil Hashem la Sotimano. Donc c'est vrai, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Aïnous Mechim, nous sommes prêts à en être heureux. D'accord? C'est-à-dire que ça commence par les Goyim, ça continue par les Juifs, à la fin même les religieux sont convaincus, et à la fin même les rabbins. Mais en tout cas, il y a ici tout un problème de travail sur cette identité universelle. Et ne vous imaginez pas que nous sommes un peu en retard. Je voudrais dire ici, donc, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles nous devons nous occuper de l'humanité aujourd'hui. C'est tout d'abord parce que c'est le moment du retour. Et la raison pour laquelle, et là je voudrais avancer un peu dans cette idée de première raison, la raison pour laquelle toutes les tentatives jusqu'à présent ont échoué, c'est parce qu'elles n'étaient pas au bon moment et au bon endroit. Ce sont des tentatives exiliques. La plus grande des derniers temps, c'est celle du rabbi de Lubavitch, qui a donné comme directive aux chassidim de Chabad d'enseigner les commandements noachid aux nations. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est très bien publié. Vous avez même dans la ville de Shrem, Naplouse, en Samarie, vous avez en plein foyer de terrorisme international, vous avez des affiches partout avec la photo du rabbi de Lubavitch et les sept commandements noachid en arabe. Et personne n'y touche. Vous savez pourquoi on n'y touche pas? Parce qu'il y a une sorte de révérence, de révérence un peu superstitieuse par rapport à l'image du rabbi, même de la part des musulmans. Mais ça ne va pas très loin. Et la raison pour laquelle ça ne va pas très loin, c'est que ça ne vient pas au nom de l'État d'Israël. Ça vient au nom d'une initiative privée, d'une religion qui essaye de se vendre. Et ça ne peut pas marcher. Et donc, mais alors qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps du retour, c'est le moment où ça doit marcher. Alors, si on prenait ça vraiment au sérieux, le projet d'Israël concerne non pas des individus, mais des nations. Et ça voudrait dire que, si j'ai raison, ça voudrait dire que le président d'Israël, Shimon Peres, et le premier ministre, Benjamin Netanyahu, devraient s'adresser au président français, Nicolas Sarkozy, et lui dire, voilà, nous avons un projet pour sanctifier la France, voilà, viens apprendre chez nous. Alors évidemment, vous voyez que c'est un peu loin, c'est un peu loufoque, c'est un peu, disons, surréaliste. Mais étant donné que ce n'est pas réalisé au niveau du klal, ça peut être au niveau de la collectivité, ça peut être réalisé au niveau des individus. Aujourd'hui, il y a un éveil en Israël, aussi bien de la part des nations que de la part des juifs, pour commencer cet enseignement. Il y a des échos très intéressants de ce qui se passe. Il y a une autre raison, peut-être plus terre à terre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un conflit à l'échelle mondiale, larvé, qui oppose des grandes puissances. Nous sommes aujourd'hui dans un état où il y a un affrontement possible, qui a commencé d'une certaine manière, entre des grands blocs, entre autres l'Occident et le monde arabo-islamique, sur l'hégémonie spirituelle dans le monde. Il y a encore d'autres foyers, vous le savez par les informations, mais il y a cet éveil de violence, de cet affrontement, et comme par hasard, nous autres, les juifs, nous sommes au milieu. Nous sommes, disons, nous risquons d'être pulvérisés entre deux blocs. Et donc, il faut lutter, alors la lutte n'est pas seulement politico-économique, la lutte implique également une alternative spirituelle. Et cette alternative spirituelle, eh bien, nous pouvons la proposer. Alors là, je voudrais vous donner quand même un petit groupe d'informations intéressant. Il y a aujourd'hui plusieurs cercles en Israël de rabbins qui commencent à enseigner aux nations le noachisme. Ça existe. D'autre part, dans le monde entier, il y a dans de nombreux endroits des groupes petits mais multiples d'individus parmi les goïms qui quittent leur culte antique, par exemple l'église ou l'islam, et qui sont intéressés, qui au lieu de tomber simplement dans la laïcité, sont intéressés par le message d'Israël et qui s'adressent à nous. Enfin, pour vous donner un exemple parmi des centaines, je suis en contact actuellement avec un Indonésien qui est très embêté parce que en Indonésie, on est obligé d'après la loi de se définir comme appartenant à une religion. Et comme il est musulman officiellement, mais qu'en fait il se considère comme noachide, il m'a demandé, est-ce que j'ai le droit de me déclarer musulman ou est-ce que c'est interdit du point de vue de la halakha, par exemple, n'est-ce pas? D'autres cas de contrées plus lointaines, de France, j'ai reçu par exemple des non-juifs qui me demandent est-ce que je peux réciter le schéma? Est-ce que je peux aller au mikvé? Des choses de ce genre, hein. C'est pas du tout de la théorie, ce sont des phénomènes que l'on retrouve un peu partout. Et c'est très souvent, comme ça a pour point de départ, une initiative personnelle dont on n'arrive pas à définir l'origine. On ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a une sorte d'éveil. On pourrait dire même que la violence de la critique contre Israël crée, comme une sorte de vague de retour, un éveil de la conscience morale de la part de nombreux individus qui se disent, mais enfin, c'est pas possible que l'on accuse Israël de tous les maux, alors que nous savons très bien que les valeurs véhiculées par Israël sont des valeurs morales. Et que ce que les ennemis d'Israël défendent, c'est la barbarie. Faut bien le dire. Et donc, ça crée des réactions disons, de heurts morales qui fait que souvent, vous avez des individus parmi les goyim qui se disent, c'est donc qu'Israël a quelque chose à nous dire, et donc nous voulons écouter ce que les Juifs ont à nous dire. Les choses d'ailleurs sont actuellement en négociation disons, pour donner une forme plus organisée à ce genre de phénomène. Il y a actuellement une négociation qui est en train de s'établir avec le grand rabbinat d'Israël pour donner un statut officiel du point de vue du judaïsme à cet éveil. C'est de même que, par exemple, quand quelqu'un veut passer dans le judaïsme, alors il y a un processus de conversion, et puis après vous recevez votre certificat, ça y est, vous êtes devenu juif. Il y aurait également une autre forme de judaïsme atténué, judaïsme pour les nations, qui, sans entrer dans la communauté d'Israël, permet d'accéder au statut qu'on appelle Ben Noach, ou Ger Toshav dans la tradition de la Halakha, et qui doit être décerné également par un tribunal rabbinique, ça pourrait se faire. Certains d'ailleurs l'ont déjà fait, nous avons plusieurs cas de goyim qui sont venus nous voir et qui ont demandé de recevoir un certificat officiel comme quoi ils sont des béné noirs. Ça règle souvent d'ailleurs des problèmes familiaux assez importants parce que par exemple vous avez le conjoint qui veut se convertir au judaïsme et l'autre conjoint qui ne veut pas. Souvent, la personne qui s'oppose à cette démarche, c'est le conjoint juif justement qui dit mais enfin tu es fou de rentrer dans le judaïsme. Il y a un peu de tout. Et en tout cas, pour tout vous dire, ça existe. Tout simplement, tout à l'heure, quand j'étais en route pour le centre communautaire, j'ai fait une petite liste des pays dont je me rappelle les noms de personnes qui se sont adressées à nous. Alors, j'ai bien dit l'Indonésie, mais en Afrique du Sud, vous avez une communauté très importante, en Hollande, aux USA, même en France, d'ailleurs, dans le sud de la France, dans l'Afrique noire, en Turquie. Je ne veux pas divulguer son nom, mais il y a un personnage très important sur le plan politique en Turquie qui, en secret, a adopté le noachisme et qui a invité trois rabbins à venir en Turquie pour lui donner officiellement ce statut, en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Angleterre, au Canada, et même en Israël, vous avez une communauté importante de Béné Noir, aussi bien d'ailleurs par de non-juifs qui sont venus d'Europe que d'Arabes locaux, qui en secret adoptent le noachisme, et qui évidemment vivent dans la terreur d'être découverts. Mais si vous cherchez bien dans leur maison, dans les petits villages de Judée et de Samarie, ben vous trouvez un des Tehillim ou des Tefillin qui sont cachés sous les tables, dans les tiroirs secrets, etc. D'accord? Donc ce que je vous raconte, ce n'est pas du fantasme, ce sont des réalités tangibles. Il y a aujourd'hui le sentiment qu'Israël a quelque chose à dire. Alors évidemment, ça demande encore tout un travail. Personnellement, j'ai été un des fondateurs d'une association qui s'occupe de ces choses-là, mais enfin, ça, c'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Maintenant, je voudrais rentrer dans un détail important. Qu'est-ce que c'est que le noachisme exactement? Parce qu'on parle beaucoup de ça. C'est quoi? C'est quoi? Alors, souvent, on dit, ben voilà, ben c'est les sept commandements noachides. Ah bon? C'est ça? Ben dis donc, c'est pas énorme, hein. C'est quoi sept commandements seulement? C'est quoi exactement les sept commandements? Ben dis, ben voilà, il faut pas que vous soyez idolâtre. Ne pas blasphémer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être débauché, ne pas manger d'un animal vivant, et avoir des tribunaux. Voilà. Ah bon, c'est tout? Bah, c'est de la morale naturelle dont vous parlez là. C'est des choses que nous faisons de toute façon. Nous ne sommes pas idolâtres, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, on n'a pas besoin de vous, hein, des juifs. Hein? L'humanisme, bon, on connaît. Pourquoi est-ce qu'Israël aurait quelque chose de particulier à dire là-dessus? Et c'est pour ça que quand on dit au Goïm, vous avez les 7 commandements de Noaki, il dit, bah, ben, ça va, on n'a pas besoin de vous. Et en fait, il faudrait pour cela étudier un petit texte du Rambam. C'est pour ça que j'ai demandé au rabbin sultan de bien vouloir me fournir ce texte de Maïmonide, gracieusement prêté par la bibliothèque du Centre communautaire de Paris. Je fais de la pub.
Oui. Bien compris.
Oui. Non, je tiens à rappeler qu'il y a une bibliothèque qui peut être consultée, etc. Je voudrais vous lire ici 2 règles de Maïmonide. La première va vous choquer, la deuxième va vous sembler agréable. Alors, je vais commencer par la choquante, mais ne vous en faites pas, elle va vous choquer parce qu'on ne la comprend pas. D'accord ? Alors, je lis ici dans Ilchot Melachim, chapitre 10, halakha 9. Goy she'asak batorah, un non-juif, un goy, qui étudie la Torah. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis quand même. Allez. Chayav mita est coupable de mort. Ah oh. Oui. Bon. Lo ya'asok, j'anticipe tout de suite. Maïmonide dit à la fin, mais on le tue pas. On lui fait peur. C'est-à-dire, on lui dit, tu sais, tu es coupable de mort. Mais Maïmonide dit, mais attention, on le tue pas. Enfin, c'est quand même pas sympathique. Hein. Bon. Lo ya'asok et la becheva mitzvot shelain bilvad. Il n'a le droit de s'occuper que des 7 commandements qui le concernent. Bon, ça veut dire que si vous donnez la tzedaka par exemple, c'est pas dans les 7 commandements. Alors il peut pas. Il a pas le droit de donner de l'aumône aux pauvres. Il a pas le droit de respecter ses parents. Bizarre. Bon. Vechen goy shavat afilu beyom mimot achol. Et de même un non juif qui a fait le shabbat même dans un jour de la semaine, par exemple le dimanche, imasaul le'atzmo kemo shabbat, s'il en a fait un jour comme le shabbat, chayav mita, il est coupable de mort. Et de même si il fait une fête pour lui-même. Klalosh el davar, de manière générale, en manichim otam lechadesh dat. On ne les laisse pas inventer une religion. Velaasot mitzvot leatzman midaatan, et de faire des commandements pour eux-mêmes, de leur propre opinion. Et là, oyi yeger tzedek vikabel kol mitzvot, il doit être soit un vrai converti et accepter tous les commandements, les 613. Oh, ça fait, c'est une question d'actualité d'ailleurs, cette histoire de est-ce que le guer doit accepter tous les commandements. Oh, il y a un mode betorato, velo yossi velo yigra. Ou bien il doit simplement se cantonner dans sa Torah, ni plus ni moins. Bon, alors, si c'est vrai ce que dit Maïmonide, alors ça veut dire que le goy n'a pas grand-chose à attendre d'Israël. Là, je lis le paragraphe juste après. Et vous allez voir que c'est exactement le contraire. Ah bon? Ben Noach, un fils de Noé. C'est quoi un fils de Noé? C'est un goy. D'accord? Oui, un fils de Noé. Tous les hommes sont des fils de Noé, donc un fils de Noé. Sheratza la asot mitzvah, qui veut faire un commandement. Mishar mitzvot à Torah, des autres commandements de la Torah. Kede le kabel sachar, pour recevoir sa récompense. En mona'ino tola asota, ke ilchata. On ne l'empêche pas de l'accomplir, selon la halakha. C'est exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Dans la première halakha, le Rambam nous dit il n'a pas le droit, après il dit non, mais c'est très bien, il peut. D'accord? Vim et virola, mais kablim et menou, s'il amène un sacrifice, on l'accepte. Il y a d'ailleurs un autre passage de Maïmonide où il dit qu'il faut enseigner aux nations à faire les sacrifices à Dieu. C'est-à-dire, si vous avez un goy, je ne sais pas, disons de Paris, hein? Il dit, voilà, j'ai une cour intérieure dans mon bâtiment. Je voudrais faire un petit autel là-bas pour sacrifier au Dieu d'Israël. Hein? Comment est-ce qu'on fait? Que dit la halakha? Ben, on lui explique comment faire. D'accord? Comment construire son autel? Comment sacrifier? J'espère qu'il ne va pas sacrifier des chats. En tout cas, ça serait intéressant, ça serait d'anthropologie. Imnatan tzedaka, mekabli menou, s'il donne de la tzedaka, on accepte sa tzedaka, etc. Alors, comment comprendre ce passage contradictoire? C'est très simple. Maïmonide fait la différence entre deux sortes de goyim. Il y a celui qui est, que la halakha appelle goy et celui qu'on appelle ben noir. Le goy, c'est celui qui n'a pas encore accepté sa responsabilité par rapport aux sept commandements. Alors on lui dit, monsieur, tant que vous n'acceptez pas la loi qui vous interdit de tuer, de voler, de débaucher et tout le reste, alors n'essayez pas de mettre les téfilines ou d'ajouter le loulav. Ça fait désordre. Alors d'abord, devenez ben noir. Ou bien vous vous convertissez au judaïsme. Mais à partir du moment où le statut a changé, où la personne est devenue ben noir, autant de mitzvot qu'il veut. Combien? Combien il peut en rajouter?
613 moins 7.
Ça fait 606. Il peut en rajouter 606. En vérité, c'est pas vraiment comme ça. Il y a des mitzvot qu'il ne peut pas faire. Mais dans l'ensemble, il peut en rajouter des centaines. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un statut de non-juif qui est intéressé par telle ou telle partie des mitzvot. Alors, je me rappelle récemment, j'ai rencontré un non-juif d'une dimension spirituelle extrêmement élevée qui m'a dit, voilà, je sais qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Israël, et je voudrais m'attacher à lui, mais ne me parlez pas des lois noachides, parce que ça, je l'ai fait déjà. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Alors, moi, je lui dis, bon, écoutez, vous n'avez qu'à prendre une poussette de supermarché et vous vous promenez entre les étagères du judaïsme et vous prenez ce que vous voulez. Il dit, non, pas du tout, c'est pas comme ça, c'est de la transcendance, ça doit venir d'une instruction de l'extérieur, il faut que vous me disiez ce que je dois faire. Hein? Un Français de Bourgogne. Hein? Ça existe, la Bourgogne. Hein? Bon, ben voilà. Oui. Non, mais c'est la réalisation du rêve de Boujna qui disait, papa, je voudrais être bourguignon. Et bien voilà, vous avez un bourguignon, un vrai, qui me dit, ben voilà, je voudrais savoir comment est-ce que on s'attache au Dieu d'Israël, mais je veux pour ça une instruction rabbinique, parce que sinon ça ne marche pas. Ça doit être hétéronome, ça doit venir de l'extérieur. Alors donc, vous avez ici tout un projet. Alors, évidemment, ça dépendrait de chaque civilisation à sa manière. C'est-à-dire, la manière dont on s'attache au Dieu d'Israël quand on est sénégalais, n'est pas la même que lorsque l'on est français. Oui, je sais, combien de temps
je
dois.
Je n'ai rien, je fais ça comme ça. Là.
Non, mais j'ai une montre, moi aussi. C'est gracieusement offert par le centre communautaire? Ah bon? Je pense. Oui. Il y a d'ailleurs un... Alors, ce que ça veut dire, c'est que le statut de Ben Noir n'est pas quelque chose d'évident. En effet, il y a un texte dans le traité de Baba Kama, dans le Talmud, qui nous dit que il fut un temps où les goïms avaient accepté les sept commandements noachides, et puis ils ont arrêté de les accepter. Et ils ont arrêté de les accomplir, et alors Dieu les a autorisés. Ra'a vayater goïm, Dieu a vu que les nations n'accomplissaient pas les sept commandements, alors il les a autorisés. Quoi ? C'est terrible. Ça voudrait dire que les goïms auraient le droit de tuer, de voler, non. Alors, le Talmud dit non, c'est surtout pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ne l'accomplissent plus en tant que mitzvah, en tant que commandement, et donc ils ne reçoivent pas la récompense qu'on reçoit pour une mitzvah. Et donc, alors ça veut dire quoi? C'est resté, mais c'est de la morale naturelle. Il y avait d'ailleurs un juif, il y a assez longtemps, qui avait dit, tout est permis, la loi est abolie. Et alors il a tout de suite dit, oui, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Ça veut dire que la morale reste, c'est les lois noachides restent valables, mais en tant que loi morale, pas en tant que commandement de Dieu. Et donc, quand le non-juif, disons, n'accomplit pas les mitzvot en tant que recevant une instruction d'Israël, il est en dehors de la transcendance. Ce que le peuple juif peut ajouter aux nations, c'est cette rencontre avec le Créateur, à travers les mitzvot, les sept commandements et même plus, des noachides. Et de ce point de vue-là, on peut dire que ce qui permet, et là je vais essayer d'aller un peu plus loin, ce qui permet de rencontrer le Créateur du monde, Dieu d'Israël, à travers Israël, c'est quand la parole du Créateur est entendue à travers Israël. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une culture qui a disparu de l'histoire, la culture prophétique. Et il fut un temps, c'est fini depuis 2400 ans, ça fait déjà 2400 ans que c'est fini. Il fut un temps où Dieu se manifestait à sa créature, où sa parole était entendue. Et quand la parole était entendue, on savait très bien quel était l'organe de cette parole, c'était Israël. Donc c'était une évidence, toute personne qui voulait rencontrer le Dieu d'Israël devait passer par la nation d'Israël, c'était une évidence. Et puis depuis que cette parole s'est éteinte, eh bien il n'en reste qu'un écho, comme on disait dans l'école d'Orsay, si la voix s'est tue, l'écho n'est pas tari. Et eh bien, il en est resté quelque chose, ça a donné les fois issues du judaïsme, mais on ne sait plus que la référence est au peuple d'Israël. Eh bien, ce qui est en train de se créer aujourd'hui en Israël, je pense que j'ai entendu la fin de l'intervention du Rav Nishai, ce qui est en train de se créer en Israël, c'est le rétablissement de cette parole. Nous sommes dans la reconstitution du prophétisme. Alors évidemment, on peut tomber dans la folie, hein, dans le mysticisme, dans le syndrome de Jérusalem, tas de choses de ce genre. Mais ça existe quand même. Il y a un retour, quelqu'un est en train de revenir. Je vais raconter une petite anecdote pour ça. Vraiment une anecdote tout à fait secondaire, mais elle exprime bien ça. Je connais un directeur de galerie artistique à Jérusalem qui m'a raconté la chose suivante. Il a rencontré une critique artistique, une journaliste qui s'occupe de critique artistique, à Tel Aviv. Il lui a dit, tu sais, j'ai une galerie d'art à Jérusalem, je voudrais que tu viennes. Réponse de la journaliste, Jérusalem, surtout pas, je viens pas. Ah bon, et pourquoi? Parce que je ne peux pas vivre dans cette ville. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que quand je marche dans les rues de cette ville, j'ai le sentiment de marcher sur un visage. Un visage. Le visage de quelqu'un. D'accord? Ça a été dit par une Israélienne tout à fait chilonite, hein, tout à fait loin du judaïsme, etc. Mais il y a un visage à Jérusalem. Ce visage est en train de s'exprimer, ce qu'on appelle Pene Hachem, la face de Dieu. Et à partir du moment où cette parole va se faire réentendre, et ça dépend entre autres de l'évacuation du centre communautaire de Paris, hein, non, je rigole pas, à partir du moment où cette parole va se faire réentendre, c'est alors que naturellement les nations vont de plus en plus prêter l'oreille. Vous connaissez la fameuse expression que tout le monde répète, Ki mitzion tetzetora udvar Hashem Yerushalayim. C'est de Tzion que sort la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Mais à qui elle est adressée cette parole de Dieu? Vous avez qu'à voir le verset juste avant. Ve'alchu goyim rabim, de nombreuses nations viendront. Ve'ameru lechu ve'na'ale el har Hashem. Allons, montons vers la montagne de Dieu. El bet Elohe Yaakov, dans la maison du Dieu de Jacob. Ve'nelcha be'orchotav. Viorenu midrachav, venelcha beorchotav, pour qu'il nous enseigne ses chemins et que nous marchions dans ses sentiers. Ki mitzion tetzetora, car de Tzion sort la Torah, ou dvar Hashem Yerushalayim, la parole de Dieu de Jérusalem. Ce qui veut donc dire que la parole qui sort est adressée non pas aux Juifs, parce que les Juifs, eux, ils sont à Sion. Alors elle est adressée à qui? Elle est adressée aux nations. Et il est significatif de voir que le phénomène a commencé. Le fait que ce phénomène ait commencé est un témoignage de l'authenticité de ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours, au temps du retour. Merci de votre attention.